soutenir l'Europe et dans le même temps endiguer le communisme, Washington conçoit alors un gigantesque projet. Le plan Marshall. L'objectif, aider par des crédits massifs l'Europe à sortir du marasme, tout en offrant de nouveaux débouchés à l'économie américaine. Matières premières et machines-outils volent à la rescousse du vieux continent. Ce n'est plus une aide d'urgence, c'est un véritable plan de redressement.
On a tous entendu ce genre de discours à propos du fameux plan Marshall de 1947. Comme quoi, sans le débarquement des Alliés et puis le plan Marshall des mêmes États-Unis, nous serions encore en Germanie, comme dit le pauvre, enfin, le chanteur, quoi. Or, derrière la légende militaire héroïque et tout à fait respectable, n'y aurait-il pas quelques zones d'ombre ? Bonjour et bienvenue dans cette 21e visite de la saison 8 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs.
Vous savez bien comment la France s'était reconstruite. Elle s'était pas reconstruite avec des crédits américains. Elle s'était reconstruite par l'effort de sa classe ouvrière. Donc le thème du médecin se penchant sur le malade près de la mort et venant le sauver avec le plan Marshall des cadeaux américains est un argument de propagande, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est effectivement produit.
Cette semaine, c'est possibilité d'une antithèse de la pensée dominante d'après-guerre avec une historienne universitaire, pour d'aucuns iconoclastes, mais dont le discours, basé uniquement sur les archives, n'est pas du tout dénué d'intérêt. Annie Lacroix-Rize a sorti fin 2023 un ouvrage intitulé « Les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine » chez Armand Collin. Deux de ses conférences ont servi de base à l'émission d'aujourd'hui.
En ce qui concerne les destructions proprement dites, je dis bien les destructions. Celles de la France, par exemple, sont des destructions largement américaines. C'est-à-dire, par exemple, la destruction des ports. Sur l'appareil de guerre allemand, les bombardements américains, outre qu'ils ont fait 75 000 morts en France, hein, ça a été l'épisode le plus sportif et célébré comme tel par la grande presse américaine. L'appareil industriel allemand a été intact. Tout le monde le reconnaissait, même dans les années 1950. Sauf quelques cas particuliers, très liés d'ailleurs aux intérêts américains en Allemagne occidentale.
Un dîner, Madame la ministre de la Culture est présente. Ça date un peu, il y a bien 20 ans. Daniel Toscan-Duplantier prend la parole.
Orson Welles m'a raconté qu'en 1945, il a participé à une réunion dans le bureau ovale où le président a dit « l'industrie du cinéma en Europe est détruite », au sens physique du mot, c'était bien vrai, et il ne faut pas qu'elle se reconstruise. Et c'est là qu'il a envoyé le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelait à l'époque M. Burns, qui a fait le tour des gouvernements européens pour dire, ben voilà, hein, l'Amérique vous a sauvé, l'Amérique va vous sauver, l'Amérique va vous nourrir, ce fut le plan Marshall, et vous allez laisser circuler librement les films. Il faut vous dire que ça paraissait même dérisoire, si c'était seulement ça la contrepartie, ça n'a intéressé personne. Il y a eu quelques petites manifestations en France, mais ça, on en fait pour presque rien. Il y a quelques photos, on voit Gérard Philippe, place de l'Opéra, le poing levé, dénonçant l'impérialisme américain. Et se sont signés à Paris les fameux accords, qui s'appelaient les accords Blum, qui était à l'époque le président du Conseil, après le départ de Charles de Gaulle en 1946, et du secrétaire d'État Burns.
À Washington, M. Léon Blum, ambassadeur extraordinaire de la République française, signe les documents qui consacrent les accords économiques franco-américains.
Les accords étaient simples, il était dit qu'il n'y aurait pas de restriction à la circulation des films américains. Franchement, je crois qu'à l'époque, on s'est dit, mais comment même, et d'ailleurs, comment aurait-on pu empêcher? Vous imaginez l'image de l'Amérique en 46-47 en France, ce qu'ils avaient fait pour nous, et d'un seul coup, ce qu'ils apportaient, et il faut le dire, la beauté des films, et la qualité des films, et les musiques, et tout, la voiture, la Cadillac, non, le rêve.
Le jour le plus long, Dunkerque, un pont trop loin, la 7e compagnie, peut-être un peu moins.
Mais les accords Blum-Burns sur le cinéma sont une partie des accords du 28 mai 1946. Ils sont incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, incroyable. Je vais vous le dire, je le raconte dans toutes mes conférences, mais c'est pas du tout seulement un procédé, c'est que ça m'a beaucoup marqué. Or, mon mari me disait, c'est pas possible, tu te trompes. Tu n'as pas compris. Je lui expliquais comment les Américains se sont fait rembourser les dommages de guerre infligés par les bombardiers américains. Oui, oui. Alors mon mari me dit, mais t'as pas compris. Ah bon ?
Pour rédiger son livre de près de 600 pages, Annie Lacroix-Rise a planché 7 mois pleins dans les archives du Quai d'Orsay, nos affaires étrangères, à tout photographier et annoter. Bref, à faire son travail d'historienne.
Donc à chaque fois, je traînais mon mari devant l'écran. Je lui disais, tu veux lire là? Tu veux lire ce qu'il y a? Bon, alors il me disait oui.
Ce générique vous dit quelque chose? C'est celui de Hogan's Heroes, série états-unienne de 6 saisons et 168 épisodes de 25 minutes diffusée sur CBS de septembre 65 à avril 71. Chez nous, d'abord diffusée sur Canal+, dans les années 80, sous le titre Stalag 13, elle prit définitivement le titre de Papa Schultz sur insistance de Jean Drucker pour sa diffusion sur M6 dans les années 90 pour souligner le côté comique. J'avoue qu'à l'époque, mon jeune âge m'avait détourné de la possibilité d'inscrire cette série dans la guerre culturelle que menaient encore et toujours les États-Unis, au même titre que La Grande Évasion qui, elle, était plus tragique et sans doute un tantinet plus réellement acceptable.
Où est l'entrée de ce tunnel?
Vous ne trouverez jamais, même si vous nous torturez.
Je ne dirai rien non plus.
Pas un mot sur le tunnel.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler et vous avouerez, je vous le jure.
Colonel, le tunnel a son entrée dans la baraque 3.
Sale traître, tu ne pouvais pas te taire.
Oh, je sais, mais je supporte pas la douleur.
La baraque 3, à la baraque 3.
À la baraque numéro 3.
À la baraque 3,
à la baraque 3.
Annie Lacroix-Rise et son mari.
Puis alors, il y a quelque chose qui a beaucoup contrarié. Nous sommes de la même génération, et les plus jeunes ne savent pas ça, mais quand on était petit, il y avait sur les marchés des surplus. Vous savez, des cochonneries abominables, avec des godasses. Et puis dans les familles déjà très atlantisées, on en achetait. Puis peut-être même dans des familles pas atlantisées. Et alors, mon mari était, comme à peu près tout le monde de notre génération, absolument convaincu que les surplus, il nous les avait gentiment laissés. Hein? Bah oui, en plus c'est vrai, objectivement, il n'en pouvait rien faire. C'était une véritable cochonnerie.
Remontons un peu le cours de l'histoire, allez, vers les années 30.
Vous ne pouvez pas assurer votre assise économique, et c'est vraiment une caractéristique très forte des États-Unis, si vous ne vous appuyez pas sur les élites fabricantes de l'idéologie dans leur propre pays, vous prenez possession de toute une série des secteurs économiques, évidemment. Le peuple les intéresse au sens où il faut que le peuple soit convaincu. Mais ce qui les intéresse directement, et ce avec quoi ils ont contact direct, je dirais, dès leur arrivée quelque part, c'est ce qu'on appelle les élites. Évidemment, les élites de l'économie, les élites intellectuelles, enfin, tout ce qui compte, tout ce qui est important, je dirais, dans la gestion de la masse de la population. Enfin bref, assurer, je dirais, la propagande à tous les niveaux possibles, puisque la propagande, qu'elle soit conforme aux faits ou qu'elle ne le soit pas, il n'y a pas un domaine qui lui échappe. Cette guerre culturelle, elle l'a située à partir de 49-50, quand se met en place le Congress for Cultural Freedom, le Congrès pour la liberté de la culture, qu'elle a décortiqué. On lui a ouvert non seulement beaucoup de fonds, mais je dirais beaucoup de contacts avec des employés de haut rang CIA qui avaient pris leur retraite.
Et qui, comme tous les allégés du secret des affaires, se sont mis à parler de surcroît sur un ton so-british à réjouir un Hercule Poirot en manque de nonos.
Connaissez-vous le billet drapeau? C'est une monnaie française imprimée aux États-Unis et distribuée par les Américains en France après le débarquement de Normandie. Attendez, quoi? Une monnaie française imprimée aux États-Unis, distribuée par les Américains en France? Le billet drapeau est donc une monnaie créée et distribuée par les Américains dans le cadre d'un plan appelé AMGOT. Si ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas étonnant, il n'y a pas grande gloire à le faire figurer dans les manuels scolaires. Le plan AMGOT, ou Allied Military Government of Occupied Territories, attends quoi? Occupied Territories? Ah! L'AMGOT est donc un gouvernement militaire ayant pour objectif d'administrer, ou plutôt de prendre le contrôle d'un territoire dit occupé par les Alliés.
Dans les grandes lignes, chaîne YouTube en juin 2023.
En effet, les Alliés ne reconnaissaient pas le général de Gaulle et le Comité français de libération nationale comme légitimes en ce qui concerne la gouvernance de la France.
Faites d'alliés ici, les seuls États-Unis nous suffiront.
L'intention des Américains était d'administrer la France et de prendre le contrôle de ses infrastructures et de son territoire, notamment avec d'autres projets, comme l'accord Clark-Darlan mettant l'empire colonial français sous occupation américaine.
Donc exploitation directe, bah tiens. Retour chez nos amis Grand-Britons, les États-Unis ont un argument massu pour tenter de les ramener à la raison et faire des affaires avec eux.
Ils auraient été saisis par la raison et ils auraient compris, ça c'est l'argumentaire américain, ils auraient compris que le facteur essentiel de la guerre, figurez-vous, c'était le protectionnisme. Et que si on allait au grand vent de l'Atlantique, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, il y aurait la prospérité, tout ça. Ah, ces gens-là, je les ai suivis depuis la Première Guerre mondiale. Je les ai rencontrés dans l'entre-deux-guerres. Et dans l'entre-deux-guerres, ce sont les champions de la solution continentale. C'est ceux qui nous préparent la venue des Allemands en France, hein, comme les Belges. Hein. Ils passent les années 30 à se dire comment on va faire quand ils seront là. Et ils ont bien réfléchi et ils s'en sont donc très bien arrangés.
Et Churchill ou pas, vous allez voir que l'oncle Sam n'est pas vraiment pote sur ce coup-là. Wings, un autre universitaire, l'a bien...
Wings montrait quelque chose d'absolument essentiel, c'est-à-dire comment, dès qu'est constitué en 1941 l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA, le service de renseignement utile à l'État américain pour conduire la guerre et préparer la paix. Donc, dès la constitution d'OSS, il montre comment l'université est mobilisée, je dirais la crème de l'université. Les universités de l'Ivy League, de la Ligue du Lierre, parmi lesquelles, bien sûr, Princeton, Harvard, Yale, etc. Et comment une série de sociologues, d'historiens, de spécialistes de sciences humaines sont mobilisés partout dans le monde pour répandre ce que les Américains ont appelé les area studies, les études de zone, chaque zone devant être conquise et contrôlée, devant faire l'objet évidemment d'une préparation intellectuelle et culturelle. Et c'est ainsi, a montré Wings, que s'est affirmée la personnalité d'un très grand historien qui s'appelle William Langer et qui a fait un ouvrage qui s'appelait Our Vichy Gamble, le jeu que nous avons joué à Vichy, et qui était un ouvrage commandé à cet historien de Harvard pour démontrer pourquoi Roosevelt et tout l'appareil d'État avaient fort bien fait de soutenir Vichy et de combattre De Gaulle.
On a donc là l'appui inconditionnel de Washington pour Vichy. En même temps, des militaires français commencent à virer Kazakh. Un citoyen qui négociait l'armistice de 40 est débarqué par les Allemands, qui l'emprisonneront pendant 2 ans avant que Doyen se rallie à la résistance.
C'est le jugement d'un chef militaire français, le général Doyen. Nous avons choisi la carte allemande, elle n'est plus opératoire, et par conséquent, il nous faut rallier dans les meilleurs délais le vainqueur américain futur, qui a été déjà le principal vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais qui sera le vainqueur toute catégorie de la guerre en cours, il appelle ça la Grande Guerre, de la guerre en cours, et dit-il, il faut compter que pendant plusieurs décades, nous serons obligés d'en passer par toutes les décisions, tous les diktats des Américains. C'est un texte du 16 juillet 1941.
Bon, il est clair que les débats sur les suites de la guerre, la résistance et la libération furent âpres jusque très tard. Ainsi, cet extrait d'un dossier de l'écran spécial en 83.
On a parlé tout à l'heure de mariage intervenu, j'ai noté, en mai 52.
Exactement, monsieur Ramirez.
Alors que ce mariage était consommé depuis bien longtemps. Ouais. Je me souviens très bien comment notre père nous racontait, en riant, comment il avait surpris le général Sponsé, la bordelle, dans la cuisine, dans une situation très fâcheuse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'étiez pas
non, très habillé.
C'est tout trouvé, j'ai pas besoin de trouver, c'est tout trouvé. Prenons la bourdelle, la grosse bourdelle, la cantatrice. Elle est présente sous les traits d'une immense cantatrice internationale, Tifa, qui refuse de chanter pour les SS. Elle faisait 6 cabarets dans la nuit à Pigalle pour terminer à 6h du matin au One Toto complètement bourré, le nez dans la choucroute.
Mais la mesure est à son compte, je m'en vais.
La Rachel, nous voilà.
Et enfin, monsieur Giraud, c'est elle qui s'en va, alors que c'est lui qui insulte.
De plus, j'affirme que le ministre ici présent s'est mis dans la poche 2 millions de francs, que André Le Goin avait apporté la résistance, je le sais, je
n'ai pas... Attention, Ramirez, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin.
Mais cette mascarade, vous faites un joli métier.
Madame, vous avez tort de quitter,
la c'est absent. La presse est pourrie.
Les absents ont toujours
tort. Donne-moi les clés de l'Audi.
C'est toi qui les as.
Mais non, crétin, c'est toi.
Il n'est pas parti.
J'ai été mis en cause, monsieur Jérôme, j'ai demandé un droit de réponse.
Mais ça suffit, monsieur Ramirez, ça suffit. Vous vous foutez du monde depuis trop longtemps. Je me demande ce que je fais ici.
Parti.
Attention, je vais crier très fort.
Messieurs, messieurs, est-ce que vous pourriez continuer ce débat dans le calme et dans la dignité?
Je n'ai pas tout dit. Je
monsieur
sais,
Ramirez,
je sais
vous.
Que c'est super résistant qui a étranglé de ses propres mains froidement le nain Enrique parce qu'il couchait avec Colette, sa sœur.
Assez, assez, c'est ignoble, c'est ignoble. Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots.
Enculé.
Monsieur Bourdel, s'il vous plaît, restez correct.
J'ai trop qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de décoloré?
Je vais te dresser, moi, avant vous là.
Monsieur,
quel salope de la part du gouvernement.
C'est le mot de la fin, ainsi se termine cette émission.
Le grand ennemi de l'impérialisme américain, c'est forcément l'impérialisme le plus puissant, c'est-à-dire l'impérialisme britannique, qui, à la fin des années 30, représente le tiers du commerce mondial, tandis que le commerce américain s'est absolument effondré. La tâche prioritaire des États-Unis de 1939, sans parler d'avant, à 1945, c'est de tuer l'Angleterre. Il est indispensable en particulier de tuer ce qui a permis à l'Europe de surmonter partiellement, et même à l'Europe capitaliste, de surmonter la crise.
Des années 30.
C'est-à-dire ce qui avait assuré au 19e siècle la richesse de l'Occident européen, c'est-à-dire les échanges bilatéraux, le pillage des colonies d'un côté, donc vous voyez, ça c'est quand même des relations bilatérales, hein, bon, et puis les relations bilatérales avec les autres pays. Et donc, la crise accentue l'usage des accords bilatéraux. J'y insiste auprès de vous, parce que ce qui se dessine actuellement, c'est la résurgence généralisée des accords bilatéraux.
Là, Annie Lacroix-Rise parle bien d'aujourd'hui, du Mercosur, etc. Autre écho actuel, le mur douanier des années 30, comme Trump nous l'a remonté de 4 étages en moins d'un mois, ici sur Radio Alpa.
Les Américains veulent tout. Ils veulent un commerce libre. Alors tout, ça veut dire quoi? On a un mur douanier, mais il y a des choses qu'on achète. Et les choses qu'on achète, c'est quoi? C'est les matières premières. Et qui détient les matières premières? Bon, on dirait les États-Unis pas mal aussi. Bon, mais les Européens, pourquoi? Parce qu'ils contrôlent des empires. Et comme ils ont des empires, et que la Grande-Bretagne, cette idiote, est sortie du libre-échange en 1932 de manière spectaculaire par la conférence du Commonwealth
à Ottawa.
De juillet-août 1932. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé un principe de préférence impériale. C'est-à-dire, on commerce entre nous. Les Américains n'en veulent plus.
Rendez-vous en Normandie actuelle, émission de France 24 le 30 mai 2014, quelques jours avant le 70e anniversaire du D-Day.
Ils sont des centaines de milliers débarqués sur les plages de Normandie. Une idée en tête, libérer la France de l'occupant allemand, mais ce n'est peut-être pas la seule. Ce que les livres d'histoire ne racontent pas, c'est la manière dont le commandement américain a vendu cette guerre aux jeunes soldats. Voilà ce pourquoi nous nous battons, titre cet article. En photo, des Françaises qui, on l'imagine, acclament leur libérateur. Une rhétorique largement utilisée pour motiver les troupes.
L'armée américaine décrivait la France comme un pays de femmes. Il y avait ce mythe romantique selon lequel le GI allait être ce valeureux chevalier, et une fois que ces femmes auront été sauvées, elles seraient prêtes à récompenser les soldats avec des baisers, voire bien plus. Ce n'était pas la seule motivation, mais une des motivations profondes, c'était le sexe.
Conséquence, une prostitution débordante partout où se trouvaient les GI, mais aussi des agressions sexuelles et des viols. Pour calmer les esprits, l'état-major américain appelle à respecter la population féminine dans cet opuscule.
Malheureusement, ça n'a pas été forcément respecté, même si ça reste un phénomène à la marge, notamment dans la Manche, puisque les historiens ont recensé à peu près 208 viols entre juin 1944 et la fin 1945.
Dans la Manche.
Des archives de 1944 indiquent qu'une grande majorité des soldats poursuivis en justice sont noirs. Assignés à l'arrière, ils sont plus faciles à attraper qu'un fantassin en route pour le front. L'armée les utilise comme bouc émissaire, les Français les montrent rapidement du doigt. Les exécutions sommaires sont alors monnaie courante.
Donc non seulement les GI noirs sont relégués à l'arrière, mais en plus c'est eux qui trinquent potentiellement pour les autres. Bref, un bien possible racisme ordinaire.
Des représentants américains se promènent à travers la Normandie en plaisantant beaucoup parce que finalement ils trouvent que les destructions sont vraiment au-delà de ce qu'ils imaginaient.
Le plan Marshall passé, hop, les affaires reprennent et pas qu'un peu.
Du bon charbon polonais, même d'une Pologne passée au communisme. Très bon, excellent charbon, pas cher. Pour la Suède, privée du charbon allemand, sur laquelle les Anglais et les Américains ont mis la main. C'est le rêve, vous pouvez être un pays anti-bolchevique, tout ce que vous voulez, mais vous adorez. Et donc vous passez des accords bilatéraux, bien entendu. Tout plein, tant que vous pouvez, en pleine guerre froide, vous passez ces accords bilatéraux. Mais ça se dit pas, parce que c'est pas occidental. Et puis de toute façon, ça va finir par être interdit. À l'époque du plan Marshall, c'est interdit. Les Américains violent, naturellement, puisque les Américains ils ont toujours acheté du manganèse aux Russes. Et sans manganèse, faites pas d'acier. Enfin, vous voyez, le commerce bilatéral, tout le monde adorait. Et les premiers qui adoraient, c'étaient nos fonctionnaires et nos représentants du capital financier. Mais comme les Américains ne voulaient pas, eh bien, ils passent la guerre à dire que c'est très vilain. Ça s'appelle de l'autarcie.
Rappelez-vous les Yankees accusés d'English de préférer faire des affaires au sein de son empire. Comme si ça ne devait pas être une préférence logique. Surtout si le surplus proposé n'est pas d'une qualité top. Bref, ainsi va presque se clore cette 21e visite de la saison 8 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans Juliette qui reprend ici une chanson signée Pierre Dac et Georges-Juan Paris pour la musique, Tyrolienne haineuse. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de haine dans Amour.
Le plan Marshall, c'est au fond l'ultime phase de la victoire américaine, c'est-à-dire du moyen pour les États-Unis de conquérir l'Europe. Finalement, on arrive en 1947 à une situation où, au contraire de ce qu'on raconte, l'Europe est reconstruite. Et elle est reconstruite par les efforts des classes ouvrières, des travailleurs concernés.
Sans parti pris, on établit le bilan de l'humanité d'aujourd'hui. Il vient limpide comme un clair de lune et lumineux comme un clair de notaire. C'est pas de sitôt que les hommes seront frères et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents.
C'est triste et déprimant.
Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout. Par en dessous, de mémoire de grinche, jamais dans les yeux, on vit en regard haineux. Ah, y en a-t-il de cette haine qui saoule les esprits, renie la fraternité et répudie l'altruisme aussi. Hélas, hélas, l'altruisme est foutu. Y'a pas plus d'altruisme que de beurre orbu. Y'a plus que de la haine, y'a plus que de la haine. Si bien que dans le pays, bientôt tout le monde sera A-I-A-I. Mais là où ça se complique, où ça vire au tragique, c'est que la haine devient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Y'a de la haine de toutes les nuances, la haine standard aux circonstances. Y'a de la haine de bon ton pour les haineux de salon et de la grosse haine de confection. Y'a trop de haine, oui, y'a trop de haine, et y'a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter de tête d'haineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux est un autre haineux, celui qui est est aussi par l'autre haï. De même que celui qui est haï, haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est.
Chaque haï donc est un haï qui est. Chaque haï donc est un haï qui est.
Ce qui fait qu'en fin de compte, on peut le voir comme ça.
L'haï ici et l'haï là.
Ah, c'est trop la haine.
L'haï, l'haï, l'haï ici. L'haï, l'haï, l'haï là. L'haï, l'haï, l'haï ici. L'haï, l'haï, l'haï là.
Et voilà, c'est comme ça qu'on est à tour de bras. N'importe qui, n'importe quoi. Tout le monde est son père ou la crème de Chester. Et qu'on se trompe de colère. Il reste plus qu'une chose à faire, c'est de rassembler par toute la terre tous les hommes généreux qui d'un cœur valeureux haïssent la haine et les haineux.
C'est ce qu'il y a de mieux.
Paris, donc allons-y, roulez tambours, sonnez trop, pète hélico, suce à ceux qui suent la haine par tous les ports et qui se font un sport d'haïr de plus en plus fort. Ah bah la haine et les haineux, ainsi que ceux qui roulent avec eux. Assez de haine, assez de gens qui passent leur temps à haïr bêtement.
Elle par-ci, elle par-là. Elle par-ci, elle par-là.
Elle par-là.